Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez à 11h sur France Culture, une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Margot Leridon, Bertie Bourdon, Lucas Lazo, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Théo Gomard. Troisième volet de notre série consacrée au déconfinement des colères. Après avoir parlé d'un retour de la fracture raciale aux États-Unis, des mobilisations à Hong Kong et avant de parler demain du Liban, place ce matin à l'Algérie.
J'ai présidé, il y a quelques heures, une réunion sur les répercussions de la propagation de cette pandémie en présence du Premier ministre, de nombreux de ministres et de hauts responsables concernés directement par la question. Les décisions ayant sanctionné cette réunion sont les suivantes. Interdiction des rassemblements et des marches, quelle que soit leur forme et leur nature, et isolement de tout endroit suspecté d'être un foyer de la pandémie.
Les gens sont toujours mobilisés malgré ce qui s'est passé les dernières heures avec la fermeture des écoles sous prétexte du coronavirus. On voit que ce pouvoir, il ne trouve rien d'autre pour arrêter ces manifestations. Il a essayé avec la répression, il a essayé avec les emprisonnements, il a essayé avec la fermeture des routes. Nous, on a l'habitude maintenant. À chaque jeudi soir, on nous sort un truc nouveau. Et comme par hasard, la fermeture des écoles arrive un jeudi soir pour dire aux gens que les vendredis, il ne faut pas sortir.
Alors qu'il avait commencé en février 2019 et que la chute d'Abdelaziz Bouteflika deux mois plus tard et son remplacement par un nouveau président n'avait pas suffi à le faire taire, c'est finalement le Covid-19 qui aura eu raison de lui. Car en effet, le vendredi 20 mars, pour la première fois depuis plus d'un an, aucune marche n'a été organisée dans les rues d'Alger, d'Oran ou encore de Tizi Ouzou. Aujourd'hui, avec un bilan de 10 000 personnes contaminées et 724 morts recensées, le pire semble avoir été évité. Et à l'instar de nombreux pays, l'heure est au déconfinement. Les commerçants ont été autorisés à rouvrir et une nouvelle phase d'assouplissement est attendue pour le 14 juin. Avec ce timide retour à la normale, une question est sur toutes les lèvres. Les marches du vendredi vont-elles reprendre? Les Algériens qui manifestent depuis des mois pour un véritable changement de régime vont-ils reprendre la rue? Si la colère et la motivation des militants du Irak semblent toujours vives, les autorités, elles, ne semblent toujours pas enclines au dialogue ni aux concessions. Au contraire, la multiplication des arrestations et autres pressions en tout genre laisse craindre une reprise en main du régime à la faveur de cette crise sanitaire. Le Irak algérien survivra-t-il à l'épidémie? C'est la grande question sur laquelle nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité Akram Belkaïd. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Akram Belkaïd. Vous êtes essayiste, journaliste au Monde Diplomatique et vous avez signé l'Algérie en 100 questions, un pays empêché qui est paru chez Talendier, qui vient tout juste d'être réactualisé. Avec nous également, Luis Martinez. Bonjour.
Bonjour.
Merci également. Vous êtes politologue, spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient, directeur de recherche au CERI. Vous avez signé, vous, l'Afrique du Nord après les révoltes arabes. C'était aux presses de Sciences Po. Avant d'évoquer la situation, de voir ce qui a changé en Algérie, voir ce qui ne change pas aussi, restons un tout petit peu avec cette crise du Covid, évidemment, parce que la crise sanitaire a provoqué la suspension du Irak. Désormais, on a un pays qui se déconfine progressivement. Dimanche dernier, les commerçants ont été autorisés à rouvrir. La semaine prochaine, il y aura de nouveaux assouplissements. Est-ce que vous pensez que le mouvement va reprendre? Est-ce qu'il y aura des manifestations ce vendredi ou celui d'après, Akram Belkaïd?
En tous les cas, la volonté y est, si l'on se fie aux écrits que publie la presse algérienne, mais aussi ce que relaient les réseaux sociaux, on voit bien que la mobilisation potentielle existe encore. Je rappellerai que la décision de ne pas manifester, même si effectivement c'est le pouvoir qui a interdit aux gens d'aller dans la rue, il y a eu de gros débats, notamment le vendredi 13 mars, au sein du Hirak, et beaucoup de gens étaient décidés à continuer malgré le danger du virus, estimant que le virus était moins dangereux que le système. Donc il y a une grosse frustration au sein de la population, et il y a beaucoup de chances. Alors on va voir comment va se comporter le pouvoir, mais en tous les cas, Les appels à manifester et à se retrouver le vendredi se multiplient depuis quelques jours.
S'il y avait effectivement au sein de ce mouvement à Akram Belkaïd des gens qui considéraient qu'il fallait poursuivre ce mouvement et que cette crise sanitaire ne devait pas être une raison pour le mettre en veille, il y en avait aussi qui considéraient qu'il était précisément de la responsabilité des manifestants de la suspendre. Et il y en avait aussi, Luis Martinez, qui considérait que c'était peut-être aussi le moment pour mettre un point final, en tout cas pour suspendre ce mouvement, qu'en réalité il était arrivé à une fin de cycle, peut-être à bout de souffle, et que c'était aussi le bon moment, Luis Martinez. Il y avait aussi cette conviction-là qui était partagée par certains manifestants.
Disons que c'est aussi l'occasion, le confinement pour le mouvement, de réfléchir à la suite à donner. Après une année de manifestations et finalement des résultats qui peuvent être, disons, discutés en termes de réussite politique, beaucoup s'interrogent aussi sur finalement comment se transformer, comment faut-il faire, se rapprocher des partis politiques, négocier, rester dans une approche, disons, de contestation et de volonté radicale du changement du régime. Donc c'est toute une série d'interrogations, mais là où je rejoins Akram, très clairement, le mouvement est disons, souhaite et a la volonté de poursuivre. Et je dirais même, de mon point de vue, je ne vois pas le régime aujourd'hui souhaiter l'interdire. Je crois que jusqu'à présent, c'est un peu paradoxal, mais le Hirak sert beaucoup le régime politique algérien.
En quoi ?
On y reviendra, je pense.
En quoi ?
Je pense que l'armée a utilisé le Hirak pour se débarrasser du système d'Abdelaziz Bouteflika. Je pense qu'il y a une sorte de récit romantique laissant croire que finalement le Hirak a fait tomber le président. Moi, il me semble que depuis 2014, l'armée cherchait à se débarrasser du président, mais elle ne pouvait pas le faire à moindre d'accuser d'un coup d'État en 2014. Elle l'a fait en 2019 avec la bénédiction du Hirak.
Alors là, ça va quand même à l'encontre de toutes les analyses qu'on entend depuis des mois, ce que vous dites, Luis Martinez. Hein.
Non, je pense qu'il y a toute une série d'auteurs qui le disent à demi-mot, disons, dans différents articles, mais je pense que depuis 2014, on avait assez clairement des propos, on avait même des représentants de la Ligue de défense des droits humains algériens qui appelaient un renversement de Bouteflika en 2014. Mais l'armée ne pouvait pas le faire en 2014. Ça aurait été vécu comme un coup d'État, disons, à ce moment-là, militaire, paradoxalement. Donc je pense que le fait, justement, d'avoir laissé autant de mois ce mouvement dans la rue, ça a quand même permis d'arrêter, de démanteler, disons, toute une série de personnages qui peut-être posaient des problèmes à l'armée sans pouvoir vraiment le faire. La difficulté, c'est que après Abdelaziz Bouteflika, le Hirak a son propre agenda, son agenda politique, de changement de régime, de démocratisation. Et là, bien évidemment, ça se heurte très clairement à l'agenda de l'armée qui est absolument pas celui d'une démocratisation.
Luis Martinez, et je vous donne la parole à Akram Belkaïd, mais je veux poursuivre un tout petit peu là sur votre hypothèse. Si effectivement l'armée a profité de ce mouvement de contestation sociale pour faire tomber Abdelaziz Bouteflika et changer, j'allais dire, les têtes, maintenant c'est ce qu'il a obtenu. Alors quel serait son intérêt à la poursuite du mouvement aujourd'hui, maintenant que les choses sont faites ? Luis Martinez ?
Ah pardon, je croyais que...
Encore vous, et puis je passe la parole tout de suite à Akram Belkaïd.
Non, mais je pense qu'il y a vraiment deux agendas politiques très différents. Mmh. L'armée a eu pendant 20 ans un partenaire politique très utile, hein, qui lui a permis, disons, de donner une apparence civile, de donner une politique de réconciliation, de remettre l'Algérie sur la scène internationale, et tout ça avec beaucoup de succès, au moins dans une première partie. Donc aujourd'hui, moi, mon sentiment, c'est que finalement, ce partenaire politique autour du système dit d'Abdelaziz Bouteflika est terminé. On sait que depuis 2013-2014, il y a eu toute une série, disons, d'actes de corruption majeurs qui ont fait que, bon, ben, ça pouvait poser un certain nombre de problèmes à l'armée. Et je crois qu'aujourd'hui, elle est à la recherche de nouveaux partenaires politiques. Moi, il me semble que on est plus dans ce type d'approche. Et le Hirak pourrait être ce partenaire. Bien évidemment, ça suppose qu'à l'intérieur de ce mouvement, eh bien, se dégagent, je dirais, ceux qui vont mettre en avant, ce que diraient les Québécois, des accommodements raisonnables, c'est-à-dire finalement accepter une part d'hégémonie et de domination de l'armée en contrepartie d'accès à un certain nombre de postes politiques et ministériels, etc., ce qui serait une forme de trahison pour le Hirak originel, pour ceux qui, disons, considèrent qu'il faut aller vers un changement radical. Et si, finalement, à l'intérieur du Hirak ne se dégage pas ce type, disons, de mouvement ou de parti, eh bien, on risque d'avoir une Algérie qui va se contracter autour des partis politiques traditionnels et laisser finalement la rue continuer à exprimer sa volonté, ce qui permettra quand même au régime politique algérien de dire, vous voyez, si nous sommes vraiment un régime dictatorial, autoritaire, totalitaire, comme on le dit, pourriez-il avoir des manifestations tous les vendredis qui dénoncent finalement ce pouvoir militaire?
Ouais,
et c'est tout
d'accord.
le paradoxe de cette situation-là, de laisser libre la critique tout en contrôlant la totalité de l'accès au régime.
Akram Belkaïd, je voudrais vous entendre sur cette vision proposée par Luis Martinez, parce que moi je vais vous dire, naïvement j'avais imaginé tout l'inverse, Akram Belkaïd. C'est-à-dire, je me disais que précisément, ce qui était là une opportunité pour le régime en place, c'était la suspension de ce mouvement. Jusqu'ici, tout était focalisé sur cette actualité du mouvement social, à laquelle, par ailleurs, on répondait de la plus mauvaise des manières, en réprimant toute velléité contestatrice, et je pensais que ce Covid, eh bien, au fond, allait offrir une opportunité politique pour ce gouvernement, pour essayer d'enclencher une nouvelle dynamique. Luis Martinez a une vision tout à fait différente. Qu'en est-il pour vous, Akram Belkaïd?
Disons que je partage partiellement l'analyse de Luis. C'est vrai qu'il y a eu convergence d'agenda entre la population qui en avait assez du système Bouteflika et un appareil militaire qui n'en pouvait plus de supporter toutes les dérives de ce système. Mais je pense que l'armée n'a pas eu le choix de toutes les façons. En février 2019, l'importance du nombre de manifestants, le fait que le Hirak était national, qu'il a concerné toutes les régions d'Algérie et pas une seule, qu'il ait drainé toutes les composantes de la société. On a vu des islamistes défiler aux côtés de gens qui seraient revendiqués plutôt du caractère progressiste et laïque. L'armée ne pouvait pas réprimer ce mouvement. Et je rappelle, il faut regarder tout de même ce qui s'est passé en février et en mars, qu'au début, l'armée a quand même été très menaçante. Il y a eu des discours très durs de la part de feu Ahmed Gaïd Salah, l'ancien chef d'état-major aujourd'hui décédé, qui a ensuite rectifié le tir. Donc il y a effectivement convergence d'agenda. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour aller vite, on sent bien que l'armée voudrait domestiquer le Hirak, effectivement l'utiliser dans un agenda qui lui serait propre, avec la recherche de gens qui parleraient au nom du Hirak, mais qui seraient très accommodants. On voit aujourd'hui des personnalités qui ont toujours évolué en marge du système, qui font des offres de services pour dire bon ben maintenant il va falloir peut-être trouver un accord, on va essayer de s'entendre sur quelques principes de base. Mais en même temps, quand je parle de domestication, c'est que la répression, elle, ne s'est jamais arrêtée. C'est-à-dire que tous ceux qui se sont dressés à un moment ou à un autre pour reprendre haut et fort le slogan pas d'état militaire, un état civil, sont aujourd'hui confrontés à une répression qui a continué pendant le confinement.
Les gens qui s'est même accéléré, dit-on aussi.
Ça s'est accéléré. Les gens qui sont en prison, les personnalités qui sont en prison et dont certaines ont même déclaré avoir refusé de coopérer avec le système, avoir refusé de se présenter à l'élection présidentielle de 2019, avoir refusé de jouer le rôle finalement que le système algérien a toujours su très bien faire, c'est-à-dire de se trouver de vrais faux opposants capables de jouer un rôle et de donner l'illusion d'une façade démocratique. Ces gens-là sont maintenus en prison, certains ont été jugés en l'absence de leurs avocats, et la répression qui vise notamment les jeunes de la société civile, des organisations de jeunes, ou qui ne sont pas des organisations politiques, qui sont plus des organisations de type citoyenne, de revendication citoyenne, se retrouvent en prison, parfois pour des motifs totalement fallacieux. Les peines sont lourdes. Il y a une nouvelle loi qui vient de passer sur la criminalisation des écrits sur les réseaux sociaux. Donc on peut se retrouver en prison pour avoir écrit des choses sur les réseaux sociaux et notamment Facebook. Donc on en est là. Il y a le régime, effectivement, ne rejette pas le Hirak. Mais il y a tout un discours qui est en train de se développer sur le vrai et le faux Hirak. C'est-à-dire que quand on entend le président Tebboune parler, on a l'impression que lui aussi est membre du Hirak et que son objectif, c'est de préserver le vrai, le bon Hirak de récupération. Voilà.
Ouais. Et puis pour prolonger un tout petit peu ce que vous disiez sur les arrestations, parce qu'il y a eu effectivement beaucoup d'arrestations, mais il y a eu également de nombreuses libérations qui auraient pu laisser penser que le régime, et d'ailleurs à un moment, c'est ce qu'on s'est dit, que le régime allait assouplir un peu sa position, mais en réalité, on libère d'un côté et on arrête de l'autre, et à chaque fois de façon totalement arbitraire, en tout cas sans fondement juridique clair, et c'est cet arbitraire de ces arrestations, de ces libérations, qui produit la crainte, évidemment, chez les activistes et qui prouve aussi le caractère non démocratique de ce régime. Justement, pour faire réagir Luis Martinez autour de cette idée du Irak originel, l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure, c'est vrai qu'on voit là aujourd'hui en Algérie toute une campagne d'attaque à l'égard du Irak avec cette idée selon laquelle on aurait d'un côté un mouvement, effectivement, authentique, originel, véritable, et puis de l'autre côté, un mouvement un peu dévoyé notamment d'ailleurs par des forces étrangères qui auraient l'ambition de déstabiliser le pouvoir. C'est d'ailleurs pas seulement des choses qu'on entend du côté de l'exécutif algérien, mais aussi dans certaines sphères intellectuelles. Je pense par exemple à la parution d'un ouvrage très récent d'un universitaire qui s'appelle Ahmed Bensada, dont tout le monde parle en ce moment. En Algérie, qui est un ouvrage qui s'intitule « Qui sont ces ténors autoproclamés du Irak algérien ?» et qui explique précisément que certaines figures du Irak ont été approchées par des ONG étrangères avec cet objectif de récupérer ce soulèvement populaire en vue de le délivrer de sa trajectoire. Je cite l'auteur. Que vous inspire, Luis Martinez, justement, tout ce discours, ce récit autour d'un Irak originel et de son dévoiement d'un autre côté? Qu'est-ce que ça nous dit de peut-être ce qu'est en train de préparer le pouvoir pour une future instrumentalisation de ce mouvement, Luis Martinez?
Je pense que c'est une constante, là aussi, dans la lutte du régime contre ses opposants politiques. Il faut se rappeler les années 90, où la répression contre les islamistes était sans commune mesure contre celle du mouvement Hirak aujourd'hui, où déjà on disait qu'il y avait finalement de bons nationalistes islamistes algériens authentiques, et puis des islamistes vendus à l'étranger. Alors à l'époque, il y avait le Soudan, il y avait toute une série de pays qui étaient accusés de les soutenir. Et on voit bien que c'est la même type d'approche qui est appliquée au Hirak. Il y aurait un Hirak finalement nationaliste algérien, soucieux de défendre la souveraineté et finalement l'État, et puis un Hirak qui serait entre guillemets porteur de projets soutenus par des puissances étrangères ou des financements étrangers. Et là on voit bien la même mécanique qui se met en place, et en fait derrière cette mécanique, ce qui est en jeu, c'est une forme de sélection de futurs entre guillemets potentiels, je dirais, partenaires avec qui discuter. Et pour reprendre la discussion que vous aviez tout à l'heure, la prison fait partie aussi d'un cadre de discussion. C'est-à-dire que quand on met beaucoup de gens en prison qu'on ne connaît pas, c'est aussi une manière pour les autorités de prendre le temps de les connaître, d'échanger, de discuter, de voir jusqu'où cela peut aller, de les remettre en liberté, sous condition, avec des éventuels procès demain.
Enfin, et éventuellement d'en faire d'éventuels interlocuteurs à l'avenir?
Alors, je ne dirais pas que c'est forcément l'école de futur politique, mais je pense que c'est aussi un cadre en Algérie, la prison, d'échanges et de rencontres au-delà de la répression. Il y a la répression, très clairement, l'intimidation, la terrorisation qui est appliquée, mais il y a aussi une forme, disons, on l'a vu avec les islamistes dans les années 90, hein, ceux qui étaient en prison n'étaient pas forcément, il y avait beaucoup de discussions, de négociations, et à la fin, même des accords passés avec ceux qui étaient en prison pour arriver à des formules, disons, de compromis. Donc je crois que il faut se dire finalement que ce régime a, comme le Hirak, d'une certaine manière, eh bien, une expérience, non pas de la gestion de ses opposants. Et je pense que le Hirak, en dépit de sa popularité, en dépit de sa dimension nationale, comme Akram le soulignait tout à l'heure, je crois que tant que le Hirak reste dans cette dimension civile, politique et démocratique et pacifiste, ça laisse des marges de manœuvre considérables au régime. Et je crois que, pour le dire clairement, on voit bien que là, aujourd'hui, l'Algérie de Tebboune s'inspire profondément de la Tunisie de Ben Ali. Il ne s'agit pas d'aller torturer les gens, mais il s'agit de les intimider avec la loi, de les emprisonner de façon arbitraire, d'avoir une pression policière sur eux. On voit bien que tout ça, c'est quand même... Enfin, il y a un niveau disons, très différent par rapport à celui des années 90, où là, on n'avait pas hésité à mettre 30 000 personnes dans le Sahara, à les laisser mourir pour certains, à tuer les gens. On n'est plus du tout là-dedans. On est dans une approche, moi, je dirais, très presque très scientifique, judiciaire et policière, où finalement, on intimide, on fait pression, on arrête, on relâche, on fait des procès à venir, et tout ça fait que ça perturbe un mouvement qui finalement considérait que ce régime était peut-être pas forcément aussi disons aussi flexible que cela dans sa gestion. Les jeunes apprennent finalement que ce régime est toujours là parce qu'il a surmonté la crise des années 60, les révoltes berbères des années 80, la dissidence islamiste des années 90 et combien d'autres opposants étaient entre guillemets finalement neutralisés par ce type d'approche. Donc je crois que il y a ce savoir-faire-là qu'il ne faut pas oublier si on veut avoir un peu d'espoir d'une transition démocratique en Algérie.
Ouais, en tout cas, c'est intéressant ce que je retiens que vous expliquez, c'est que ce cadre d'arrestation, de libération, c'est aussi, d'une certaine manière, un espace de négociation justement avec ce mouvement Akram Belkaïd. Ce Irak, il se veut horizontal. Il rejette le principe de la mise en avant de figures particulières. Sauf que, comme très souvent, il y a quand même des figures qui émergent. Karim Tabou, Mohamed Tadjatit, Samir Ben Larbi, Fodil Boumala, il y en a plein d'autres. Mais c'est vrai que ces figures, pour certaines en tout cas, ont été mises en avant par le pouvoir à travers leurs arrestations, à travers leur emprisonnement. Donc au fond, c'est aussi par la répression que les autorités ont forgé ces icônes de la révolution. Quel avenir politique vous leur voyez à Akram Belkaïd? Et est-ce que c'est pas le moment précisément pour le Irak de se formaliser pour mettre en avant des interlocuteurs qu'il choisirait lui-même plutôt qu'il ne soit choisi par le système, en tout cas par le pouvoir en place, Akram Belkaïd?
Je crains que cela ne soit un vœu pieux dans la mesure où les personnes que vous venez de citer sont effectivement, qu'elles le veuillent ou non, des politiques, mais il leur manque l'appareil politique. C'est-à-dire qu'on est tout de même dans un pays où le système Bouteflika, entre autres, mais les 20 dernières années, ont permis de casser la structuration politique. C'est-à-dire que nous avons des partis qui ressemblent à des coquilles vides, qui sont incapables de s'organiser, et donc c'est une vaste étendue vide qui est incapable aujourd'hui de relayer, de donner un cadre doctrinaire aux revendications de la population. Et c'est là où le problème est majeur, c'est-à-dire que vous avez un enthousiasme populaire qui a été démontré pendant un an, plus d'un an, des gens mobilisés, des gens qui ont compris qu'il y avait une nécessité de faire évoluer le système. Il y a quelques essais de plateformes politiques, de réflexions politiques, mais ce qui manque, c'est le relais, c'est la diffusion, c'est la discussion politique, et non plus simplement le fait de recourir à des slogans, à dire que le système doit dégager, etc. C'est la grande difficulté aujourd'hui du Hirak. Et c'est d'autant plus fort que beaucoup de gens refusent, si vous voulez, d'aborder les questions fondamentales parce qu'ils craignent que cela ne divise les rangs du Hirak. Que ce soit la question des femmes, des droits de la femme, que ce soit la question de la place de la religion, que ce soit la question de l'identité. Ces débats-là ont eu lieu, mais en catimini, et sont rarement abordés parce qu'on a justement, dans la mesure où le Hirak est un mouvement populaire, je dirais, massif, le fait qu'il demeure horizontal permet aux uns et aux autres de cohabiter dans la rue sans avoir à s'opposer les uns les autres. La grande crainte aujourd'hui des Algériens, et en cela c'est une des réussites du système, c'est qu'il y a une idée, si vous voulez, qui est intériorisée, qui est que la politique divise et que cette politique qui divise peut mener au chaos et au retour de ce que nous avons vécu dans les années 90. Donc il y a une grande méfiance, c'est assez paradoxal, mais il y a une grande méfiance à l'égard du fait politique en Algérie. Il y a des revendications, mais dès lors qu'on évoque le fait qu'il faut qu'il y ait une organisation, qu'il faut qu'il y ait des relais, les gens sont bien plus réticents par rapport à cela, et ça ouvre, effectivement, comme le disait tout à l'heure Luis, ça ouvre la voie à une orchestration qui pourrait permettre au pouvoir de dire, bon voilà, on va arriver à une solution, voilà ce qu'on vous propose, on met en avant X ou Y, et à la faveur, par exemple, des prochaines élections législatives qui auront lieu lieu à la rentrée prochaine. Il y aura peut-être un quota de personnalités dont on se dira qu'elles ont l'étiquette Hirak et elles pourront exister au sein de l'Assemblée nationale, etc., etc. C'est aussi la volonté de la réforme constitutionnelle. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais qui est sur la table. Et je rappelle que cette réforme constitutionnelle ambitionne notamment, enfin, dans le texte dont on a pris connaissance, c'est que la future constitution, qui n'arrête pas d'être amendée en Algérie, contiendra un préambule qui rendra hommage au Hirak. C'est là où on se rend compte à quel point ce Hirak est important pour le système politique algérien, pouvoir algérien.
Effectivement, dans les travaux préparatoires, on fait référence au Hirak, et il n'empêche que ça ne permet pas, ça ne garantit pas que les acteurs de ce mouvement et les revendications qu'ils portent trouveront bien la transformation politique qu'ils attendent. Luis Martinez, sur cette question des figures de ce Hirak, de la formalisation peut-être de ce mouvement. Parce que c'est vrai que le régime ne cesse de dire, ne cesse de déplorer de ne pas avoir d'interlocuteur avec lequel discuter. Est-ce que là, la véritable révolution des esprits, en tout cas, Luis Martinez, ce serait précisément que ce Hirak se formalise, qu'il choisisse des figures afin de les placer en interlocuteur plutôt que de se retrouver avec un régime qui lui imposerait?
Je pense que ça a été aussi bien posé par Akram. Il me semble qu'il y a deux défis pour le Hirak. S'il se formalise, très clairement, il ne maîtrisera pas les règles du jeu politique qui seront instaurées. C'est-à-dire que si demain il se formalise pour devenir un parti politique, rien lui garantit que les élections qui auront lieu seront transparentes et libres. Donc il risque finalement de légitimer un système, d'y participer et de pas bénéficier des résultats politiques qui seraient liés à sa participation ou à la mobilisation de son électorat. Et le deuxième point, c'est que s'il reste, disons, ce mouvement social, eh bien, certes, il démontre une force, un enthousiasme, une jeunesse politique extrêmement, attractive, mais en même temps, il est incapable de peser sur, finalement, les acteurs centraux que sont l'armée, finalement, et ses partenaires politiques, qui, eux, définissent leur agenda, comme on l'a dit, réforme de la Constitution, élections législatives, municipales à venir, etc. Et donc,
Quel que soit le scénario, c'est un échec politique pour le Hirak.
Non, je crois pas. Je pense que il me semble que si le Hirak, on le met dans une approche, disons, urgentiste, c'est-à-dire finalement, il faut des résultats immédiats, on sera déçu. Mais si on considère que le Hirak, c'est finalement une école de réappropriation, finalement, de l'action politique, et finalement, celle-ci peut donner des résultats institutionnels dans la durée, eh bien, je pense que le Hirak, aujourd'hui, finalement, est en train d'essaimer dans la société algérienne et de permettre vraiment une reprise de conscience de, finalement, à quoi sert un État, la représentation politique, l'action politique. Et je pense que naîtra de ce mouvement-là des forces politiques expérimentées, c'est-à-dire qui auront finalement eu, à travers ce mouvement-là, un apprentissage du rapport au pouvoir. Mais si maintenant on veut aller faire un peu, comme je dirais, dans sa dimension religieuse, le Front islamique du salut, on est créé en quelques mois, on fait des élections, on les gagne, mais on ne sait pas gérer la relation avec l'armée, parce que la base, finalement, dit tout et son contraire, ben on perd tout. Et je crois que le Hirak, à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment un mouvement qui a reçu les leçons du passé. Il est bien conscient que sur le plan formel, il n'a aucune chance. Il sera un peu comme au Maroc, finalement, avec le PJD ou d'autres partis dits de l'opposition, une voie ou une courroie, finalement, de la monarchie pour le Maroc. Et bien là, il sera une voie dans le système, finalement, militaire et civil. Mais sa capacité à peser sera limitée. Donc, si on le remet dans une perspective plus longue, à mon avis, il y a de quoi espérer. Si maintenant on a une approche urgente, immédiate d'un résultat politique, il est évident que les voies sont extrêmement serrées et limitées aujourd'hui.
Akram El-Kaïd, est-ce que vous abondez dans ce sens et en particulier sur l'idée qu'en réalité tout cela va prendre du temps et que c'est une forme d'apprentissage politique que l'on a là maintenant devant nous? Et la question qui va derrière, sur laquelle je voudrais vous entendre, vous l'avez évoqué tout à l'heure, parce qu'il y a un projet effectivement de réforme constitutionnelle, est-ce que ça vous apparaît comme étant l'étape essentielle et suffisante précisément pour valider justement cet apprentissage politique et transformer le geste politique qu'on est en train de voir aujourd'hui pour le moment seulement dans la rue, Akram El-Kaïd?
Alors oui, je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut rien attendre sur le court terme. Aujourd'hui, on a une décantation qui se fait, on a une stratification. Beaucoup de jeunes Algériens découvrent le fait politique alors qu'on pensait que ça ne les intéressait absolument pas. Certains se forment. Ceux qui passent par la case prison sont en train d'acquérir une légitimité, mais aussi, si j'ose dire, une expertise politique qu'ils n'auraient jamais eue par ailleurs. Donc effectivement, on assiste à... alors je ne sais pas s'il est encore trop tôt pour parler de renaissance, mais en tout cas, le fait politique, d'une certaine manière, est en train d'échapper au régime parce que il y a une autonomisation d'une partie de la population qui est en train de réfléchir aux questions. Alors ça a débuté avant le Hirak, hein, mais je pense notamment à tous ces mouvements de protestation contre l'exploitation des gaz de schiste, des mouvements d'essence citoyenne, mais qui se place carrément en dehors de la matrice voulue par le régime. Donc ça, en cela, il y a énormément de, je dirais, d'espoir à avoir par rapport à ça, parce qu'encore une fois, l'histoire retiendra que les 20 années de Bouteflika auront comme été des années, je dirais, de dévitalisation totale de du panorama politique algérien. Ouais. Donc ça, c'est clair. Sur la Constitution, c'est encore une manœuvre propre à la logique du système, d'un système qui est obsédé par le formalisme. C'est vraiment ce qui caractérise aussi le système algérien. C'est-à-dire, rien ne se fait sans respecter un cadre formel. Donc, on fait une constitution et on proclame que c'est la réponse aux revendications du Hirak. Mais cette constitution n'a jamais cessé d'être malmenée depuis plusieurs décennies. C'est-à-dire qu'on a eu droit à une constitution en 1996 qui était plutôt ambitieuse, qui limitait le nombre de mandats présidentiels. Et puis Bouteflika est venu, il l'a amendé pour son propre intérêt. Aujourd'hui, on l'amende dans un sens différent en remettant cette limitation. Enfin... Les gens ne sont pas dupes. C'est-à-dire que si le système demeure en l'état, on sait très bien que peut-être dans 10 ans, 5 ans, cette constitution sera à nouveau
amendée.
Ce n'est pas l'essentiel.
Luis Martinez et Akram Belkaïd, et je vous demanderai une réponse relativement rapide, parce qu'ensuite on va recevoir une nouvelle invitée pour poursuivre nos échanges. Mais il y a un point sur lequel je voudrais vous entendre, c'est la question de l'armée. On a déjà évoqué à plusieurs reprises depuis une trentaine de minutes maintenant, mais je voudrais essayer de comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui et son poids réel. Parce qu'il y a eu des changements à la tête de l'armée, à la tête des renseignements aussi. Comment interpréter tout ça? Est-ce que les équilibres ont changé? Est-ce que finalement aujourd'hui le poids de l'armée dans le pouvoir a été amoindri? Est-ce qu'on est en train de voir là sous nos yeux quelque chose qui ressemble à une présidentialisation encore plus forte de ce régime? Luis Martinez et puis Akram Belkaïd, il faut encore une réponse relativement courte s'il vous plaît.
L'armée se prépare à affronter très clairement trois crises. Il y a une crise sociétale, finalement un rejet de ce système et une volonté de créer une alternative. Donc il ne faut pas qu'elle offre la moindre faille finalement à cette crise, finalement que les manifestants ne trouvent pas un jeune colonel prêt à prendre le pouvoir et à répondre à leurs, disons, à leurs attentes. Une crise très clairement, disons, économique qui se profile et financière. La chute du baril du pétrole annonce en Algérie finalement vraisemblablement des révoltes sociales qui seront extrêmement difficiles à gérer là aussi. Et donc je pense que cette solidarité de l'armée qui est en train de se reconstruire devra être, entre guillemets, à l'épreuve de cela. Et puis enfin, une crise finalement avec ses partenaires internationaux. L'Algérie très clairement est en train de laisser entendre que vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'Europe et d'autres grandes institutions avec lesquelles elle travaille, eh bien que, entre guillemets, la période de vacances du pouvoir s'est terminée, qu'il faut donc maintenant considérer que l'Algérie, un peu comme l'Égypte de Sissi par exemple, pour vous donner ce type d'élément, eh bien, doit être pris pour ce qu'elle est, non pas pour ce que l'on souhaite. Et je pense que toutes ces réformes à l'intérieur de l'armée, eh bien, c'est une forme finalement de reconsolidation des loyautés, de reconsolidation finalement des partenariats à l'intérieur de l'armée pour éviter finalement d'être en situation de gérer dans les deux ou trois années à venir une situation qui risque d'être bien plus compliquée que ce que le Hirak a montré cette année. Je le redis, le Hirak, c'est pacifique. Ce qui attend l'Algérie est sans doute beaucoup moins pacifique à terme.
On assoit de nouvelles loyautés à Akram Belkaïd, mais on ne démilitarise pas réellement ce régime, à Akram Belkaïd.
Oui, alors je ne vais pas redire ce qu'a dit Luis. J'ajouterai en complément que on pensait que le rôle de l'armée serait conditionné par l'évolution en termes de génération. Il se trouve aujourd'hui que la majorité des officiers supérieurs, il reste encore quelques vieux dinosaures, mais le renouvellement s'est fait. On a des gens dont la plupart ont été formés en Algérie, sortent des grandes écoles militaires algériennes. Et il y a un principe qui finalement n'a pas changé et qui reste partagé par, je dirais, ce commandement, qui est que l'armée est l'acteur principal du jeu de pouvoir en Algérie. Je rappelle qu'en 1988, après les émeutes d'octobre 88, lorsque il y avait eu la décision de passer au multipartisme, l'armée avait symboliquement annoncé qu'elle se retirait du FLN. C'était pour elle une manière de signifier qu'elle sortait du champ politique. Ce qui s'est passé en 2019 a démontré que c'est l'armée encore qui décide, qui joue le rôle d'arbitre entre les différents intérêts. Et ça, c'est une conviction qui existe au sein de nombreux officiers supérieurs, mais qui est partagée aussi par une partie de la population. Ça, il faut jamais l'oublier. Donc, c'est là aussi toute la difficulté du mouvement du Hirak, qui consiste à convaincre les gens que demander à ce qu'on passe à un état civil avec moins d'interférences avec les militaires n'est pas une agression à l'encontre de l'armée, et c'est tout le débat qui existe, notamment par rapport à l'ouvrage que vous avez cité, qui est une espèce de mise en accusation de tout ce que peut du courant progressiste en Algérie.
On est avec vous, Akram Belkaïd, et vous, Luis Martinez, dans cette série consacrée aux colères sociales, le grand déconfinement aujourd'hui. Nous parlons de l'Algérie et nous allons regarder justement ce qu'il en est s'agissant des jeunes qui migrent, ces jeunes Algériens qui continuent de quitter le pays. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Tu nous appelles.
D'accord.
Dès que tu arrives, promis.
T'inquiète, papa.
Je ne m'inquiète pas. Je te fais confiance. Cette fois-ci, je sais que tu réussiras. Rien ne t'arrêtera. Et si j'étais jeune comme toi, eh bien, j'aurais fait la même chose. Dire qu'avant, je vivais de l'autre côté. Et je suis revenu. Kidak le bran. T'Allah frouak.
T'inquiète pas.
Extrait du film Araga de Merzak Alaouche, ce dialogue entre un père et son fils avant que ce dernier n'embarque pour l'Europe, un film sorti en 2009. Ce qu'on appelle un Arag, c'est un migrant clandestin, jeune souvent, qui prend la mer depuis le Maghreb sur une petite embarcation pour gagner l'Europe. Ce mot Araga, c'est un terme algérien qui veut dire « ceux qui brûlent ». Et les Araga, la Araga, c'est l'action de brûler les papiers, de brûler les lois, soit en séjournant au-delà de ce qu'ils permettent, ce que permettent les visas, soit en partant illégalement. Donc les Aragas, c'est les brûleurs de papier, les brûleurs de frontières. On va en parler tout de suite avec Farida Souya. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur en sciences politiques et chercheuse associée au CNRS, au laboratoire méditerranéen de sociologie, université Aix-Marseille. Vous avez fait d'importants travail d'enquête sur le Hirak et vous êtes notamment intéressé à ces jeunes candidats à l'immigration et leur rapport à la mobilisation politique. D'abord, est-ce que vous diriez que ce Hirak a eu pour effet de conforter ces jeunes dans leur projet d'exil ou au contraire, ils se disent qu'au fond, cette mobilisation, c'est un moment historique auquel ils doivent absolument participer et que par ailleurs, ça pourrait peut-être ouvrir vers une nouvelle ère plus favorable ?
Je dirais que la réponse à cette question est assez complexe selon le moment où l'on prend le Hirak, parce que c'est vrai que comme on l'appelle comme ça, le mouvement le Hirak, on a tendance à un peu à le réunifier de la première semaine à la 56e semaine avec une rupture donc le 20 mars. Quand j'ai réinvesti le terrain pour repartir dans les quartiers dans lesquels j'avais fait des enquêtes auprès de personnes qui essayaient de partir, de quitter l'Algérie par la mer. En fait, au départ, ils ont été très investis, ou en tout cas, ils se sont engagés dans la rue, dans le Hirak. Et pour eux, ça représente quand même quelque chose, et notamment une certaine reconnaissance sociale et aussi citoyenne, en fait, de la place des classes populaires dans la société. Donc, ça veut pas dire que ce mouvement n'a eu aucun impact sur eux, ni qu'ils ne sont pas investis. En revanche, beaucoup, après quelques semaines, ont arrêté d'aller marcher pour diverses raisons, parfois matérielles et parfois par un désinvestissement et aussi par, pour certains, une impression que ce mouvement était peut-être plus celui progressivement de classe moyenne ou classe moyenne supérieure que celui de classe populaire auquel ils appartiennent.
Et certains sont partis, certains ont repris justement leur projet migratoire originel.
Alors, c'est vrai que En fait, en Algérie, et aussi dans les médias à la fois algériens mais aussi européens, il y avait une rumeur très tenace au début du déclenchement du Hirak, qu'avec ce déclenchement du Hirak, la Harga avait cessé. Les jeunes avaient essayé d'arrêter de partir parce que ça avait suscité un espoir, parce que ça avait suscité une liesse, etc. En réalité, si on regarde les chiffres, on n'a pas des chiffres sur le nombre de personnes qui essayent de partir. En revanche, on a des chiffres qui sont des bons indicateurs du nombre de personnes qui essayent de partir, qui sont ceux du nombre de personnes arrêtées. Et en effet, il y avait très peu de personnes arrêtées dans la première phase, entre guillemets, du Hirak. Mais si on compare à celle d'autres années, c'est pas très surprenant pour ces mois-là de l'année, parce qu'on est sur une migration qui se passe par la mer et donc qui est très dépendante des conditions météorologiques. Donc c'était plus un récit que l'on faisait sur le Hirak qu'une réalité, ce coup d'arrêt de l'émigration. Mais le fait est que quand les départs ont repris en septembre-octobre, comme ils reprennent tous les ans en septembre-octobre à cause d'une accalmie météorologique, ça a été interprété comme, eh bien, c'est parce qu'il y a un essoufflement du Hirak que les jeunes recommencent à partir.
D'accord.
Mais en réalité, si on regarde les données, elles sont plus complexes que ça. Elles ne savent pas ce qu'elles indiquent exactement.
Alors, j'entends qu'il y a une forme de saisonnalité, finalement, dans ces départs, et on le comprend bien, Farida Souya. Mais si on regarde, si on prend encore du champ, on prend encore davantage de distance, on voit qu'il y a aussi des évolutions au cours des années. C'est-à-dire que quand on regarde justement ces chiffres, on voit qu'il y a eu un point culminant de départ au milieu des années 2000, puis ça s'est un peu calmé, il y a eu moins de départs, et puis à nouveau, ça a repris il y a à peu près 4-5 ans, on en a à nouveau beaucoup parlé. Qu'est-ce qui finalement conduit l'évolution de ce phénomène ? C'est quoi le moteur de ces départs ?
Alors, les moteurs, ils sont pluriels et ils sont en premier lieu des moteurs socio-économiques. Souvent, partir par la mer en prenant des risques très importants pour sa vie, c'est être relégué à l'écart d'un système de mobilité légale. Et cette relégation, elle s'inscrit dans une continuité d'une relégation du système économique officiel légal en Algérie. C'est très souvent, donc, quand il y a des situations économiques qui sont dégradées, de plus en plus de personnes qui sont un peu reléguées à l'informalité, voire à des économies illicites, on a une augmentation du départ. Après, il y a aussi des facteurs politiques de ces départs, mais ces facteurs politiques, en réalité, ce n'est pas... pour les changer, en fait, c'est du temps long. Il y a bien sûr une décrédibilisation des corps intermédiaires, du processus politique, et ça, c'est vrai que d'analyser exactement quel est l'impact du Hirak, c'est encore un petit peu difficile. Mais si je vous fais une comparaison, donc j'avais fait des enquêtes en Algérie en 2011 avec des jeunes avec le même profil migratoire, et j'en ai refait exactement dans les mêmes quartiers en 2019. Et la différence dont les propos de mes interlocuteurs, eh bien, c'était pas cette question de est-ce que l'Algérie va changer et devenir démocratique du jour au lendemain, mais c'était celle de qu'est-ce que la contestation sociale peut faire parvenir. Et en 2011, même chez des jeunes de quartiers populaires, il y avait cette crainte que si ça se lève en Algérie, si ça se soulève, comme ça se soulevait en Tunisie, par exemple, à ce moment-là, eh bien, il y aurait le chaos, il y aurait de la déstabilisation. Et là, ce qui a fondamentalement changé le Hirak en termes de socialisation politique, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir une contestation massive dans la rue, par la manifestation de rue, qui n'allait pas dans la violence et qui ne menait pas au chaos. Et ça, c'est quand même quelque chose de fondamentalement différent, en fait, dans ces deux périodes.
Ce qu'il faut nous expliquer aussi, Farida Souya, c'est la réponse des autorités face à ce phénomène migratoire de jeunes Algériens. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites. Je pense en particulier à la fin des années 2000, quand les autorités décident de pénaliser les départs illégaux, ça peut être des peines importantes, hein, parce que ça peut être jusqu'à 18 000 euros, je crois, 60 000 dinars, ou même 6 mois de prison. Je crois que vous avez eu, vous, l'occasion, il y a quelques années, de voir justement comment se déroulaient ces procès de ces jeunes haragas. Concrètement, quel a été l'effet, justement, de cette pénalisation de ces départs illégaux, et comment on traite ces cas-là du point de vue judiciaire, Farida Souya?
Alors, cette question, elle est très importante parce qu'au-delà de dire quelque chose sur la migration, elle dit quelque chose de fondamental sur le système judiciaire algérien. Elle dit quelque chose déjà, c'est que d'ores et déjà, avant l'amendement du code pénal qui a eu lieu en 2009, on les arrêtait, on les jugeait et on pouvait les condamner. Et donc, sans fondement légal, parce qu'on les arrêtait, on les condamnait au titre du code maritime, comme s'ils avaient pénétré un navire marchand ou un navire de voyageurs. Or, ce n'est pas le cas. La plupart partent sur des embarcations de fortune, que ce soit des chalutiers quand c'est les plus grandes ou c'est vraiment des toutes petites barques. Donc, ils ne vont pas sur un navire où ils s'insèrent de façon illégale. Donc, on les condamnait d'ores et déjà. Ce que ça change en 2009, c'est qu'on nous dit, bon, bah, en fait, il y a un fondement légal. Ce fondement légal, on le met dans la loi nationale, à l'encontre du droit international qui dit que toute personne a le droit de quitter son territoire et d'y retourner. Et là, ça inaugure une période où la modalité d'application de cette loi, elle est à la fois très aléatoire et très violente, en fait, parce que toutes les personnes arrêtées, en général, dans des mêmes missions d'interception, c'est-à-dire qu'elles soient ou pas dans la même embarcation, vont être jugées dans des procès collectifs. Donc ça peut être des procès où on juge de façon collective 110, 120 personnes quand il y a eu plusieurs embarcations arrêtées en même temps. Moi, c'est le plus grand procès auquel j'ai assisté au tribunal de Ain El Torq, qui est un petit tribunal près d'Oran, c'était ça les effectifs. Et on considère qu'à partir du moment où on les a arrêtés en train d'essayer de partir, alors même qu'ils sont algériens dans les eaux territoriales algériennes, c'est du flagrant délit, donc c'est de la comparution immédiate. L'application de la loi, elle se fait de manière un peu plus... la condamnation à la peine de sursis, elle est systématique, de 6 mois. 60 000 dinars d'amende, également, c'est systématique. Ensuite, selon les cas, on aura de la prison ferme. Si on est sur de la récidive, sans fondement légal aussi, mais en général, quand il y a des incidents sur l'embarcation, une embarcation qui se retourne, une personne qui perd la vie, etc., là aussi, on va systématiquement sur des peines de prison ferme. Ouais. On est vraiment sur une justice paternaliste qui va demander aux jeunes de s'engager à ne plus essayer de partir, et même au niveau de la rhétorique des avocats, qui défendent les personnes, au lieu de dire finalement, en fait, c'est des Algériens en eau territoriale algérienne. Donc, ils n'ont pas essayé de franchir une frontière au moment où vous les avez arrêtés systématiquement. On est plutôt sur des arguments de « Ah, ils sont d'ores et déjà souffrants, ce n'est pas la peine d'ajouter à leur souffrance en les condamnant, etc. »
Farida Souya, et je vous demanderai une réponse courte pour qu'ensuite on puisse s'intéresser au Soudan. On va accueillir dans un instant Clément Day. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à attendre s'agissant de la gestion de ce phénomène par l'actuel pouvoir? Le président Tebboune a pris la parole il y a quelques semaines justement sur ce phénomène de la Harga, et il a expliqué notamment qu'il allait peut-être mettre en place un dispositif visant à envoyer ces jeunes une semaine ou deux dans les pays européens pour qu'ils se rendent compte de la situation, de la difficulté qu'il y avait à y vivre, et que au fond leur place n'est pas là-bas mais bel et bien dans leur pays, je le cite mot pour mot. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait effectivement mettre en place et que ça changerait le phénomène?
Alors déjà, c'est pas quelque chose qui peut mettre en place, et deuxièmement...
Oui, il faut des accords avec les États européens, accessoirement, évidemment. Oui.
Et même, ça changerait pas fondamentalement le phénomène. En fait, il y a ce mythe un peu que et les organisations internationales, comme l'OIM, mettent en place des politiques de sensibilisation au risque de la migration régulière, et aussi aux réalités un peu de ce qui les attend au-delà de la Méditerranée. Moi, la plupart des personnes auxquelles j'ai parlé ne sont pas naïves, dans le sens où elles n'ont pas de connaissance en fait des conditions de vie. Moi, en entretien, on m'a déjà dit, je préfère qu'on m'appelle salarabe en France que de rester ici. Donc la discrimination, le racisme, la précarité, c'est pas des choses dont ils ne sont pas au courant. Ils ont d'ores et déjà beaucoup de pères qui sont partis par ces moyens-là, etc. Donc ce qu'il faut juguler en fait ce phénomène-là, c'est pas changer ou qu'ils se rendent compte de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, mais en fait c'est de changer leur réalité sociale en Algérie. Et ça, cette réalité sociale, elle est très difficile à changer, parce qu'on est sur une économie rentière peu productrice d'emplois, et que pour beaucoup, en fait, ce qu'ils cherchent, c'est une stabilité économique et une reconnaissance sociale. Et donc, tant que le système algérien ne peut pas leur donner ça, il n'y a pas de raison de ne pas essayer de partir pour essayer de trouver cette stabilité économique et cette reconnaissance sociale ailleurs.
Merci beaucoup, Farida Souya, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheuse associée au CNRS, au Laboratoire Méditerranéen de Sociologie de l'Université Aix-Marseille. On va prendre la direction du Soudan. En décembre 2018, le Soudan avait connu une mobilisation citoyenne sans précédent qui a débuté dans un premier temps autour de la hausse du prix du pain, de la cherté de la vie dans ce pays qui était en proie à une crise économique profonde. Rapidement, les revendications sont devenues politiques et le mouvement a fini par provoquer en avril 2019 la chute d'Omar el-Béchir au pouvoir depuis presque 30 ans, rappelons-le. Mais comme en Algérie, eh bien, les manifestants se sont retrouvés devant une institution militaire qui refusait de lâcher le pouvoir aux civils jusqu'à ce que, enfin, en août 2019, un accord de transition soit trouvé. Alors, où est-ce qu'on en est presque un an après, alors que l'ONU vient d'annoncer la création d'une nouvelle mission au Soudan pour soutenir la transition? La démilitarisation du pouvoir est-elle vraiment en route? Bonjour Clément Dehaye.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes anthropologue à l'Université Paris 1, spécialiste du Soudan. Avant d'évoquer les questions purement politiques, d'abord un mot sur la question sociale. Farida Souya parlait de la réalité sociale des Algériens. Du côté du Soudan, depuis la chute d'Omar el-Béchir, depuis l'enclenchement de cette transition, en réalité la situation sociale du pays ne s'est pas beaucoup améliorée. J'allais dire au contraire, et évidemment la crise du Covid a aggravé encore les choses, Clément Dehaye.
Alors oui, la question sociale qui était une des questions centrales de la révolution ne s'est absolument pas améliorée. Après, les attentes des Soudanais sont paradoxales, c'est-à-dire qu'il y a toujours des manifestations et des demandes assez fortes pour résoudre la crise économique et, dans le même temps, une conscience que les institutions de l'ancien régime qui ont duré 30 ans sont difficiles à abattre. Et pour régler la question sociale, il va falloir du temps à ce nouveau gouvernement. Il faut des négociations internationales qui n'ont toujours pas abouti pour avoir des prêts au niveau du FMI et d'autres institutions internationales. Et donc, il y a en même temps cette question sociale qui est toujours très prégnante et en même temps une attente du peuple soudanais qui est voilà un petit peu ambivalente.
Mmh. S'agissant de la transition politique, Clément Dehaye, où est-ce qu'on en est? Il y a eu en août 2019 cet accord, beaucoup d'observateurs ont parlé d'accord historique entre les militaires et les civils. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots le contenu de l'accord et surtout où est-ce qu'on en est de son application? Parce que c'est bien gentil d'avoir un accord, faut-il encore qu'il soit mis en œuvre?
Alors l'accord a été plutôt bien mis en œuvre dans l'ensemble. Cet accord prévoit la répartition du pouvoir entre deux institutions de manière très schématique. Donc un conseil souverain qui s'occupe des questions de souveraineté et de défense, contrôlé majoritairement par les militaires, même si les civils sont également présents. Donc il y a 6 sièges pour les militaires et 5 sièges pour les civils. Enfin c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais pour simplifier, on va dire comme ça. Et un gouvernement civil avec la présence au ministère de la Défense et au ministère de l'Intérieur de militaires. Donc la répartition du pouvoir est assez claire. Les questions militaires, les questions de souveraineté sont réservées aux forces armées et les questions économiques, sociales et de politique internationale pour le gouvernement civil. Dans l'ensemble, les choses se sont plutôt bien passées, mis à part les négociations parallèles du chef du Conseil de souveraineté, donc M. Bourhan, qui a négocié avec des envoyés d'Israël alors que le gouvernement n'était pas au courant, ce qui a causé quelques perturbations au niveau de l'État. Néanmoins, concernant cette répartition des tâches, pour l'instant, il n'y a pas de grand souci. Le premier problème serait plutôt la place des forces paramilitaires au Soudan. C'est-à-dire que les forces armées, donc l'armée officielle n'est pas seule. Les forces paramilitaires, ce qu'on a appelé les Janjaweed pendant très longtemps, occupent une place très importante dans la révolution et dans la période actuelle et sont entre guillemets la troisième force. Aujourd'hui, les forces militaires officielles, l'armée, les forces de défense sont un petit peu en perte de vitesse, sont marginalisées par ces accords de paix, alors que les forces paramilitaires, elles, prennent de plus en plus de pouvoir, notamment via la transformation de blanchiment d'argent, de l'argent de la guerre au Darfour, dans de nombreuses entreprises à Khartoum et au centre du pays.
Et oui, et là, il y a une figure qu'il faut introduire, c'est le général Emeti, à la tête de cette unité paramilitaire soudanaise, la force de soutien rapide, à peu près 30 000 hommes, ces fameuses milices Janjaweed, qui avaient été responsables notamment de ce massacre du 3 juin 2019, dont on avait beaucoup parlé, dont on a fêté les un an il y a quelques jours, enfin commémoré. Le rôle justement de Emeti dans cette transition est... L'avenir politique que vous lui voyez, il est aujourd'hui numéro 2 du Conseil souverain. Quel avenir politique il pourrait avoir? Parce que vous nous dites clairement, au fond, aujourd'hui, c'est pas le problème de l'armée, c'est le problème des paramilitaires. C'est lui qui incarne les paramilitaires.
Oui, c'est lui qui incarne les paramilitaires. Il est en train d'essayer de changer son image qui est liée à la guerre du Darfour, au massacre dans la guerre du Darfour. Il a essayé de changer son image progressivement. Il s'est entouré d'équipes de communication saoudiennes et il achète un certain nombre d'entreprises. Il renforce ses réseaux clientélaires. Il essaye d'apparaître comme l'homme fort qui serait capable de rétablir la sécurité à un moment s'il y avait un souci. Néanmoins, sa figure est très largement rejeté par l'élite politique du centre du pays, pour le dire un petit peu rapidement, puisque la révolution a remis au centre du jeu politique et à la tête de l'État des élites postcoloniales et coloniales que les islamistes avaient écartées pendant tout un certain temps. Et ces élites-là voient d'un très mauvais œil la puissance de ces groupes paramilitaires qui viennent de régions marginalisées. Et donc il y a un combat politique et économique qui se joue entre différents groupes à ce niveau-là. Et en effet, les forces armées semblent aujourd'hui un peu plus marginalisées. Et Mehdi bénéficie par ailleurs d'un soutien international très fort des Émirats Arabes Unis, puisque sa force paramilitaire fait office de mercenaire pour les Saoudiens et pour les Émiratis au Yémen, mais aussi en Libye, permet de contrôler un certain nombre de frontières. Et donc, il bénéficie d'un soutien international très fort. Donc, le futur de Hemeti n'est évidemment pas assuré. En tout cas, il va jouer un rôle crucial dans les années à venir.
Et puis, il y a aussi un point sur lequel il faut s'attarder un tout petit peu. C'est les conflits du côté du Darfour Sud, Sud Kordofan, dans le Nil Bleu. Ça fait des mois qu'il y a des négociations pour essayer de ramener la paix dans ces territoires-là. Où en est-on? Est-ce que c'est un obstacle à la transition qu'on peut franchir? On peut espérer un accord de paix?
Il s'agit...
Parce que c'est décisif pour poursuivre cette transition.
C'est absolument décisif pour la suite de la transition. Mmh. Alors c'est un échec pour l'instant pour le gouvernement civil qui s'était engagé à signer des accords de paix dans les 6 mois. Les 6 mois sont écoulés, les accords de paix n'ont toujours pas été formalisés. Alors il y a des progrès, certains, mais les groupes rebelles de ces zones-là sont aussi éclatés. Et le pouvoir soudanais est éclaté entre militaires, paramilitaires et civils. Et donc ces négociations-là, entre autant de forces, sont extrêmement compliquées à mener, notamment parce que les groupes rebelles demandent des formes de justice transitionnelle, des réparations et une re-répartition des terres, et que c'est quelque chose que l'armée et les paramilitaires ont du mal à accepter. Donc on est sur quelque chose qui est encore très compliqué. Néanmoins, la trêve qui dure depuis la révolution dure et les combats n'ont pas repris à ce jour. Donc on est quand même sur une voie de pacification, même si des accords de paix n'ont pas été réglés. Néanmoins, cette question est vraiment centrale puisqu'elle va conditionner la répartition du pouvoir entre Khartoum et les différentes parties du pays qui est au cœur de ces guerres civiles depuis longtemps.
Eh bien,
ce déséquilibre.
On suivra ça. Merci Clément Dehaye d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes anthropologue à l'Université Paris 1.
شفت صغار قاطعين البحور تتمنى تلقى بلاد النور انا صغير ما تلومينيش بالك يا بلادي ما فهمتنيش بلادي يا بلادي ولدك مجروح من غير بلادي ما عندي وين نروح شفت وجوه عليها الاحزان.
Voilà, c'est avec ce très joli morceau déniché par Benjamin Huc qu'on se quitte. Blady, il y a Blady de base. Ils en mettra d'ailleurs les références sur le site de Culture Monde. Un grand merci à Graham Melkaïd et Luis Martinez qui nous ont accompagnés ce matin pour comprendre où on en est du côté de l'Algérie. Je rappellerai, vous concernant Akram Melkaïd, que vous venez de réactualiser l'Algérie en 100 questions, et vous, Luis Martinez, que vous avez écrit l'Afrique du Nord après les révoltes arabes aux presses de Sciences Po. Pareil, évidemment, toutes les références sur la page de Culture Monde. Un grand merci en tout cas à tous les deux.